Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Daniel Tamizoni.
Bonjour à toutes et à tous, les titres de votre journal. Le parti politique CDR condamne le saccage de son siège et de sa radio de proximité à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Oubangui. Les faits se sont passés dans la nuit de samedi à hier dimanche. Jean-Lucien Boussa, président de ce parti politique, dit saisir la justice pour que les auteurs soient punis. Les coupeurs de route multiplient des attaques contre les motards. Cela se passe sur l'axe Kalemie-Mississi en province du Tanganyika. Le dernier cas remonte au week-end dernier lorsqu'ils ont dépouillé 5 motards de tous leurs effets de voyage. Arrestations répétées, pêche illicite, violation des zones de frayeur. C'est la situation qui prévaut actuellement sur les eaux du lac Édouard. Il faut remettre de l'ordre, mais comment? Nous recevons dans ce journal pour en parler le député Jean-Paul Ngaangodi qui séjourne dans la région. L'élu du territoire de Béni est l'invité de cette édition à laquelle je vous souhaite la bienvenue. Le courant des démocrates rénovateurs, CDR, parti cher à Jean-Lucien Boussa Tongba, condamne le saccage et l'incendie du bâtiment abritant son siège fédéral et la radio de développement de l'Oubangui RDU à Guémena dans le Sud-Oubangui. Dans un communiqué qui porte la signature de Jérémy Kalala Mukena, son secrétaire général, son secrétaire national, le CDR dit avoir décidé de saisir la justice à qui il demande de sanctionner sévèrement les auteurs intellectuels et matériel de cet acte terroriste. Julien Yamouyi nous donne l'économie du dit communiqué.
D'après le communiqué, les faits se sont passés dans la nuit du samedi 17 à ce dimanche 18 octobre. Aux environs de 3h du matin, 8 assaillants ont débarqué à bord de motos et mis le feu au bâtiment abritant le siège fédéral et la radio de développement de l'Oubangui. Grâce à la bravoure et la vigilance de la jeunesse du CDR, commis à la sécurité du bâtiment, le feu a été heureusement maîtrisé. Le CDR, qui s'est défini comme un parti politique non violent, prônant les valeurs démocratiques, dénonce ces actes qui, je le cite, rappellent la destruction et l'incendie de plusieurs maisons de ces dirigeants locaux à Likimi en juillet 2020 dans les territoires de Boudjala par les membres du même parti politique. Fin des citations. Pour le courant des démocrates rénovateurs, cette attaque est le résultat d'un comportement belliqueux de certains acteurs et membres du parti politique bien identifiés qui ont, par des messages audio à sa possession, promis de saboter les intérêts du CDR dans le sud Oubangui, fief naturel de son leader. Le CDR rappelle à l'opinion que lors d'une tournée récente dans le sud Oubangui, un leader politique a fait appel à la violence, incitant ses militants à s'attaquer aux autres leaders de la province. Pour le courant des démocrates rénovateurs, ces actes terroristes prémédités d'une époque révolue sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans cette partie de la RDC. Ainsi demande-t-il instamment à la justice de dénicher les auteurs de ces actes afin qu'ils soient sévèrement punis.
Le collectif d'action de la société civile Casque en abrégé réitère son appel au dialogue politique et convie le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à le convoquer le plus vite possible. Dans une déclaration publique hier dimanche ici à Kinshasa, le Casque estime que la tenue de telles assises est de bon augure au regard du climat sociopolitique tendu en RDC, caractérisé notamment par la montée en puissance de l'insécurité, la cacophonie dans l'animation du pouvoir judiciaire, la précarité financière. Cette structure invite par ailleurs les acteurs politiques et sociaux, toutes tendances confondues, à se saisir de cet appel pour sauver la nation en péril. Le condensé de la déclaration du Casque avec vous, Jean-Désiré Kanyama.
Bon augure, en effet, précise le collectif d'action de la société civile, notamment pour la recherche de solutions concertées aux maux qui minent la RDC et qui empêchent son développement. Dans sa déclaration, le CAS interpelle le Congolais afin qu'ils apportent leur soutien à cette initiative salvatrice, porteuse d'espoir, dit-elle, pour la nation et à la communauté internationale dans sa diversité à accompagner cette requête. Le CAS rappelle son récent communiqué appelant à un dialogue pouvant permettre des réformes dans un cadre extra-institutionnel par une réconciliation qui devra passer par la vérité et le pardon, deux leviers nécessaires pouvant favoriser un climat de concorde au sein de tendances à la fois sociales et politiques. Par ailleurs, le CASC constate que le dialogue n'est plus une vue de l'esprit, mais le canal républicain pour apporter des solutions idoines aux problèmes multiples que rencontre notre pays. Constant dans sa démarche, ce collectif tient à préciser que le partage des pouvoirs n'est pas le mobile du dialogue auquel il appelle de tous ses voeux, mais la quête de solutions à travers des réformes. Enfin, le CASC note avec inquiétude la demande de la levée des sanctions des principaux acteurs de répression des manifestations pacifiques organisées sous les régimes passés, sans que les victimes ne puissent obtenir réparation des préjudices subis.
Allons présent dans la province du Tanganyika où plusieurs attaques sont dirigées contre les motards. Les attaques dirigées contre les motards ont eu lieu le week-end dernier sur l'axe Kalemie-Mississi et à chaque fois, nous rapportent nos sources, les motards et leurs clients sont dépouillés des sommes d'argent et tous leurs biens de voyage. Expedi Mambamoubi nous en dit plus.
Une certaine confusion règne autour de l'identité des assaillants. L'alerte parvenue à Radio Okapi ce dimanche matin parle de l'attaque ce même jour de 5 motards à la hauteur de la localité Toulongué en province du Maniema. C'est à plus ou moins 160 km de Kalemie. Confirmation avec ce membre de la société civile de Bendera. Des inconnus ont ravi aux motards de l'argent, des sacs de voyage et autres effets. Au total, 5 motards transporteurs de glacières. Les passagers ont subi également le même sort. Les assaillants ont tout pris. L'attaque s'est déroulée du côté de Toulongué, en province du Maniema. Toulongué, c'est à plus ou moins 40 km de Mapanda où nous nous trouvons. Les victimes de l'attaque viennent de passer ici à Mapanda. Ils sont en route vers Kalemie. Selon d'autres sources, 5 assaillants munis de 4 armes de type AK-47 auraient tendu une embuscade au FRDC hier samedi entre les localités Kalonda et Muzinga Maloba. Certaines sources parlent de coupeurs de route d'origine Toa. Kalemie, Expedi Mwambamoubi, Radio Okapi.
Poursuite samedi à Beni des audiences par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en audience foraine dans le dossier de l'incendie du bureau de la mairie et des installations de du quartier général de la MONUSCO dans la ville de Beni lors des événements de 24 et 25 novembre 2019. À ce stade, la Cour a déclaré non établi en fait en droit les différentes infractions reprochées aux prévenus dans le cadre de la présente procédure et par conséquent, les a tous acquittés et libérés. Marc Marofimbo a suivi pour nous cette audience.
Lors de ces audiences qui ont pris toute la journée du samedi jusque tard dans la soirée, il a été question de statuer sur les analyses juridiques de la décision de la Cour dans la gestion de ce dossier. Les débats ont fait ressortir que l'avocat général militaire près la Cour militaire opérationnelle a fixé rapidement les dossiers devant la Cour pour jugement sans que les investigations ne soient bien poussées. Difficile dès lors d'établir le fait concernant les différentes infractions reprochées aux prévenus qui ont été finalement acquittés. Le procès a toutefois démontré que les véritables donneurs d'ordre ayant entraîné le dégât des positions de la PNC chargée de sécuriser la mairie et les installations de la MONUSCO et le commissaire supérieur Safari Kazingoufou, commandant urbain de la PNC ville de Beni au moment des faits. C'est cette situation qui a permis aux manifestants de mettre en exécution leur entreprise criminelle. En plus des ordres donnés, l'ancien commissaire aurait eu aussi des réunions avec des leaders des manifestants par deux fois le 22 et le 23 novembre 2019. Et ce sont les conclusions de ces réunions qui ont poussé les manifestants à incendier ces deux sites. Bien que les prévenus, principalement des policiers, soit acquitté, la Cour militaire opérationnelle a ouvert une information judiciaire contre le commissaire Safari et demande que les investigations s'étendent à tous les participants aux différentes réunions afin que le vrai commanditaire de ces incendies puisse répondre de leurs actes devant la justice. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Plus de 70 personnes sont mortes et plusieurs autres portées disparues depuis le début de ce mois d'octobre, cela suite à la recrudescence des accidents de navigation dans la province de l'Équateur. Il s'agit des baleinières, ces embarcations en bois qui ont chaviré avec passagers et marchandises à bord. Les trois cas d'accidents mortels sont survenus en pleine navigation nocturne sur la rivière Lulunga entre Mbandaka et Bassankoussou. La surcharge de l'embarcation en est une des causes de l'accident. La population accuse le commissariat fluvial de ne pas faire respecter les normes en vigueur. Le point avec vous, Paul-Richard Malengela.
Dernier cas en date le 16 octobre dernier, vers 2h du matin, HB Malou a heurté un bateau accosté sur la berge de Bassankoussou. La baleinière s'est totalement engloutie sous une barge avec une cinquantaine de passagers à bord et leurs marchandises. Nos sources parlent d'aucun survivant. HB Malou retournait de Djolo dans la province de la Tchouapa pour la ville de Mbandaka. Deux jours auparavant, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, deux baleinières appartenant à la société Vanité sont entrées en collision. C'était vers le village Boyeka en aval de Bassankoussou. Les deux embarcations se sont disloquées avant de connaître un incendie de moteur et de sombrer toutes sous l'eau. Elles avaient à leur bord un grand nombre de passagers et d'importantes cargaisons. Le bilan provisoire est de 18 corps repêchés, tous des enfants de moins de 17 ans. La plupart des passagers étaient des jeunes vacanciers. Ils retournaient en Mbandaka, soit à l'intérieur pour la rentrée scolaire. Bien avant, le 3 octobre, un convoi de deux pirogues couplées a chaviré toujours au large de Boyeka. Il avait quitté Mbandaka la nuit avec une voiture et des passagers qui se rendaient à Bassankoussou. Bilan provisoire, 6 morts dont 2 enfants et une femme. Jusque-là, le véhicule reste sous eau. La navigation nocturne et la surcharge au mépris des normes en vigueur sont à la base de ces accidents. Et les Mbandakais dénoncent un laisser-aller du commissariat fluvial au péril des vies humaines. Mbandaka, Porsche Maningela, Radio Okapi.
Et dans le sud Kivu, ce sont les exportateurs des minerais, membres de la Chambre des mines, qui menacent de suspendre l'achat et l'exportation du minerai de wolframite. Ils protestent contre la Commission nationale de la mercuriale qui fixe le prix de ce minerai à plus de 13 dollars américains au moment où ce même produit se vend entre 6 et 8 dollars sur le marché international. Les exportateurs des minerais demandent au ministère des mines de revoir cette situation le plus vite afin de faciliter la traçabilité des minerais du pays vers l'extérieur. Le président de la Chambre des mines du Sud Kivu indique que la suspension des activités par ses membres ouvrirait grandement la voie de la fraude minière, dont le wolframite. Maître Joseph Kazibaziba au micro de Emmanuel Elamejua Kabedi.
La Commission nationale mercuriale propose que l'wolframite, le prix doit être de 13,85. Étant donné que le marché aujourd'hui de ces mêmes produits est négocié entre 6 et 8 dollars, sur base de quel élément la Commission a fixé le prix de 13,85 sur un produit qui est vendu au niveau international à 8 dollars? On n'y comprend rien du tout. La conséquence est que les exportateurs qui vont exporter les wolframites, ils vont souscrire des licences au prix de 13,85, mais ils ne pourront vendre leurs produits qu'à 8 dollars. Voilà pourquoi on sera obligé d'arrêter l'achat et l'exportation des wolframites. Mais quelle pourra être la conséquence si nous arrêtons les creusers? Ils vont continuer à creuser les minerais, mais au final, nous, on ne pourra pas acheter. Donc, on ouvre encore grand le fameux couloir de fraude des produits artisanaux.
Le projet Réseau décentralisé de communication citoyen, financé par l'Union européenne et géré par RFI Planète Média, en partenariat avec la nouvelle société civile du Congo, arrive à terme. La clôture officielle a eu lieu samedi 17 octobre ici à Kinshasa. Selon Flandengante, chargé de projet, ce programme mis en œuvre en 2016 consistait à donner la parole aux acteurs de la société civile et aux autorités locales de développement à travers 22 radios de proximité sur les 11 anciennes provinces de la RDC. Fladengande parle ici des acquis de ce programme qu'il convient de pérenniser. Il le dit au micro de Paul Matendo.
Les résultats doivent se situer dans la durée et le développement dépend en grande partie des changements de comportement qui est un processus. La logique serait que le programme puisse continuer. Les radios et les acteurs de la société civile puissent maintenir la collaboration avec les autorités locales en charge des développements et surtout dans cette logique de la décentralisation, la politique de rendre compte. C'est vraiment très important de constater des ressentis des populations, surtout les partages d'informations et d'expériences. Vous savez, si on dit problème d'électricité, quelqu'un qui est en Mbandaka à Gemena, il sait que sa province n'est pas connectée au réseau SNEL, mais quand il apprend à travers le magazine national que même à Kinshasa, même à Gombe, il y a des coupures intempestives, on utilise le générateur, ça fait prendre conscience qu'effectivement, nous partageons les réalités du Congo, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Et voilà un peu les grands bénéfices que nous espérons pérenniser.
Actualité internationale.
Une mission ministérielle de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour tenter une médiation. Elle est arrivée, cette mission en Côte d'Ivoire, pour rencontrer les différents acteurs politiques. L'opposition ne reconnaissait plus la légitimité des institutions chargées de l'organisation et de la validation du scrutin prévu le 31 octobre prochain et exige le retrait de la candidature du président sortant Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Cette médiation internationale permettra-t-elle aux différents partis de trouver un terrain d'entente? L'espoir est mince selon les spécialistes. Le Gabon a allégé son couvre-feu anti-Covid-19 et autorisé sous de nombreuses conditions la réouverture des lieux de culte. Les Gabonais se réjouissent de l'allègement du couvre-feu qui débute désormais à 22h au lieu de 20h. Le gouvernement a également annoncé la réouverture des églises et mosquées, mais c'est une réouverture assortie de nombreuses conditions, par exemple un seul jour de culte par semaine. Il faut un test COVID négatif pour participer à un culte. Les offrandes ainsi que la communion sont interdites. Le non-respect de ces mesures est passible d'une amende de 5 millions de francs CFA.
L'invité.
La situation sécuritaire sur les eaux du lac Édouard est préoccupante. Elle est caractérisée par des arrestations répétées, la pêche illicite, violation des zones de frayeur. Que faire pour remettre de l'ordre dans ce secteur? Pour en parler, nous recevons dans ce journal comme invité l'élu du territoire de Béni, le député national Jean-Paul Ngaangondi, qui séjourne dans la région. Écoutez-les dans cet entretien accordé à Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Paul Ngaangondi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous séjournez dans la région de Kiavinyonge, Bunyuka, Kiondo, au bord du lac Édouard. Comment vous évaluez la situation sécuritaire dans la zone, mais surtout celle des pêcheurs congolais qui sont dans cette partie du territoire?
Ce qui est vrai, c'est qu'à Kiavinyonge, j'ai constaté que la situation sécuritaire de nos pêcheurs est tellement inquiétante, parce que toutes les fois que nos pêcheurs doivent se retrouver sur les eaux du lac Édouard, ils subissent des menaces de la part de patrouilleurs de l'armée ougandaise. Beaucoup parmi eux ont déjà été victimes. Leurs biens qui ont été pillés par des éléments de l'IPDF, mais également il y a ceux qui ont été torturés et qui, carrément, ils sont devenus presque des handicapés. Il y a d'autres qui ont été tués. Donc la situation de Kiavinyonge par rapport d'abord à cette catégorie de personnes, c'est-à-dire les pêcheurs, il y a un problème très sérieux qui nécessite l'intervention de l'État congolais. Voilà pourquoi moi je suis en train de penser que si par exemple le gouvernement congolais pouvait réglementer les activités de la pêche sur le lac Édouard en mettant des mesures efficaces par rapport aux activités de pêche, cela peut permettre à ce que le pêcheur puisse être sécurisé.
Mais comment comprendre cette situation honorable, alors que tous les services habités de l'État sont éplatés dans cette zone côtière du lac Édouard?
Mais au-delà de ça, il y a aussi des maïmaï qui occupent une grande partie de là où se trouvent des maternités des poissons. Et cela inquiète. Si nos pêcheurs traversent même pour aller dans la partie ougandaise, c'est tout simplement parce que il n'y a pas une bonne mesure d'encadrement du côté RDC. Donc, il y a des maïmaï qui font du n'importe quoi. Il y a aussi les agents de certains services qui sont aussi impliqués dans les pêches illicites, notamment les chefs d'antenne de l'environnement, y compris la force navale, qui sont accusés de pouvoir autoriser ou soit de faciliter les activités de pêche illicite sur le lac Édouard. Il y a autant de problèmes qui nécessitent des solutions de la part des autorités au niveau provincial qu'au niveau national pour que chez nous, qu'il y ait quand même de l'ordre, parce qu'il y a des désordres observés sur le lac Édouard. Il n'y a pas de mesures efficaces pour réglementer les activités de pêche sur notre lac, alors qu'il y a des lois qui prévoient certaines mesures par rapport aux activités de pêche sur les lacs, mais des lois qui ne sont pas appliquées. Donc c'est ce que nous sommes en train de déplorer.
Alors, voyant que les conséquences de cette anarchie sur le lac Édouard est grave, comment peut-on y mettre fin?
Donc moi je suis en train de penser que pour mettre fin à cette situation que traverse ce pêcheur, le gouvernement congolais doit d'abord réglementer les activités de pêche sur le lac Édouard, mais également que notre armée puisse traquer ce groupe armé afin que l'autorité de l'État soit rétablie. Au niveau maintenant de Bunyuka, là, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme parce que l'armée qui est déployée sur le terrain considèrent toute la population de Bunyuka comme des éléments maïmaï, ce qui est grave. Voilà pourquoi on observe, par exemple, à des arrestations arbitraires et des détentions illégales et qui ont comme conséquence maintenant de paiement des amendes transactionnelles illégales, mais aussi des amendes exorbitantes. Donc la population vit dans cette partie du territoire de Beni comme à l'époque des Tipotipo, comme des esclaves. Donc c'est une situation que je n'ai pas appréciée. Personnellement, j'ai dit que je vais échanger avec les commandants des opérations Sokola 1, le général Chirimwami, pour qu'ils puissent quand même arriver à assainir ce secteur, parce que l'armée, si elle est là pour la population. Et si les patrouilles se font dans l'objectif de renforcer la sécurité de la population, oui, c'est bien. Mais lorsque les patrouilles ont comme objectif tracasser la population, faire souffrir la population, alors là, la mission de l'armée, carrément, change sur le terrain. Ce que nous ne pouvons pas accepter, nous qui sommes comme porte-parole de cette population, nous qui sommes représentants de cette population auprès des institutions de la République démocratique du Congo.
Monsieur Jean-Paul Ngangoune, je rappelle que vous êtes le député provincial élu du territoire de Beni. Nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et le député répondait aux questions de Marc Marofimbo et c'est la fin de ce journal sur Radio Kapi. Merci à vous de l'avoir suivi.